Je vous invite à prendre vos Bibles et à retrouver Galates 1. Il y a deux semaines, lorsque nous avons observé la table du Seigneur, nous avons pris le début de ce texte et j'ai à cœur de le terminer ensemble. Et puis la semaine prochaine, nous allons encore observer la table du Seigneur. En considérant, Dieu voulant, les paroles de Jésus quand il a dit « Tout est accompli ». Et puis par la suite, commencer une autre, revenir sur une série ailleurs dans la parole de Dieu. Pourquoi Jésus est-il mort? Lisons les premiers 5 versets de Galates. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Et nous pouvons tous dire Amen. Dans l'Épître aux Galates, Paul précise là au verset 4, si vous voulez jeter encore l'œil, que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Et nous avons vu il y a deux semaines que l'essence même de cette bonne nouvelle, c'est une mort. Il s'est donné lui-même, ça parle de sa mort. Et ça peut paraître étrange pour quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile que la bonne nouvelle est centrée sur une mort. Vous savez que même nos amis, les musulmans, ils ne peuvent pas accepter que Jésus soit vraiment mort. Mais la bonne nouvelle concerne une mort. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et nous avons vu, et je le dis juste comme rappel, que c'était une mort spécifique. C'est pas la mort de n'importe qui, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que c'était une mort volontaire. Il s'est donné lui-même. Ce n'est pas qu'on a pris sa vie, mais il s'est donné lui-même. Et puis, il l'a fait en sacrifice et à notre place pour que nous n'ayons pas à mourir pour nos péchés. Et quand nous prenons nos péchés à la légère, quand nous excusons nos péchés, nous disons, ce n'est pas grave, ce n'est pas ma faute, en fait, nous minimisons la mort de Jésus parce que Jésus a dû mourir pour nos péchés. Le Seigneur des Seigneurs, loin de Dieu, s'est volontairement donné pour nos péchés. Alors, je vous pose encore la question, je crois que j'ai terminé avec ça il y a 15 jours, mais est-ce que vous pouvez dire cela de vous-même, que Christ est mort pour mes péchés? Je sais qu'il est mort à ma place, que moi je ne vais pas mourir parce que Jésus est mort pour moi. Ça c'est l'essence donc de l'Évangile, une mort avec ses quatre déclarations qualificatives. Mais maintenant, nous voulons voir, aller plus loin dans le texte et voir l'objectif de la mort de Jésus-Christ. Alors, regardez le verset 4. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Et maintenant, il y a la déclaration d'un but, d'un objectif. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Il y a plusieurs bonnes réponses qu'on pourrait donner à cette question, mais que dit ce texte ici? Il est mort afin de nous arracher du présent siècle mauvais. L'objectif de la mort de Christ, selon ce texte, c'est de nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Mauvais. C'est fort comme langage. Afin de nous arracher, voyez ça dans le texte, du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. Alors, Regardez ce mot arraché. C'est traduit aussi parfois délivré ou même retiré dans d'autres traductions. Ce mot arraché, c'est utilisé en Actes chapitre 23. Donc on va aller, on va garder la place si vous voulez bien. Reculez dans vos Bibles en Actes chapitre 23. Et on fait ça pour deux raisons. On va voir une illustration biblique qui va nous aider à mieux comprendre le sens, la force de ce mot. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre ensemble encore une histoire biblique. Donc, trouvez Actes 23 et notez le verset 10. Paul est ici devant ce qu'on appelait le Sanhédrin. Okay, ici, vous avez une image. Le Sanhédrin avait 70 hommes. Devant était le souverain, un sacrificateur. Et en Actes 23, Paul est arrêté. Il est amené devant ce Sanhédrin. Les choses ne vont pas bien. Regardez chapitre 23, verset 10. « Comme la discorde allait croissant, le tribun » Et ça, c'est le commandant, hein, c'est l'officier romain. Il est là avec Paul, parce que Paul est sous sa garde, en fait. Il a l'habitude hein, de voir des choses violentes. Mais il regarde à ce qui se passe. Donc ça, c'est pas voilà, quelqu'un qui ne connaît pas quand les gens commencent à se chauffer, s'énerver. Là, c'est un commandant romain. Et il se dit, ben, si on n'agit pas rapidement, hein, ce gars va être littéralement tiré en pièces, mis en pièces. Donc, il craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Il faut imaginer le commandant qui appelle des soldats romains. Ils arrivent et ils doivent vraiment frayer un chemin pour prendre Paul et pour l'enlever. Alors, pour résumer une longue histoire, dès qu'il entend parler d'un autre complot visant à ôter la vie de Paul, il appelle deux centurions et il leur ordonne de préparer, imaginez ça, 200 soldats d'infanterie romains, plus 200 archers bien formés, plus 70 cavaliers, hein, des hommes à cheval. Ça, c'est 470 soldats romains. Et comme si cela ne suffisait pas, il les fait quitter la ville sous le couvert de l'obscurité de la nuit pour plus de sécurité. Il doit faire partir Paul de la ville de Jérusalem. Et les hommes à pied l'accompagnent à mi-chemin. La Bible dit jusqu'à la ville d'Antipatris. Cela fait 60 kilomètres aller simple de nuit pour 400 hommes. 400 hommes vont faire à pied 60 kilomètres et puis revenir 60 kilomètres le lendemain. Et puis les 70 hommes à cheval vont escorter Paul sur les 45 kilomètres qui restent jusqu'à la ville de Césarée. Alors si on se demande, si on se pose la question sur l'ampleur de la menace ressentie par ce commandant romain à Jérusalem, eh bien la réponse, hein, quelle était la menace qu'il sentait ? La réponse se trouve dans les mesures qu'il va prendre pour faire échapper Paul à cette menace, pour éliminer cette menace. Et ce même commandant envoie une lettre à Félix, qui habite à Césarée, pour justifier ses actes. C'est en acte 23, regardez le verset 26. Donc, lui s'appelle Claude Lysias. Donc, c'est la manière typique à l'époque hein, de mettre en premier le nom de l'expéditeur suivi du nom du destinataire et des salutations. Il dit au très excellent gouverneur Félix, salut. Et voici sa lettre. Il va chercher, vous allez chercher le mot que Paul utilise, que cet homme, hein, utilise, mais que Paul en Galate utilise à propos de ce que Christ a fait pour nous. Il dit verset 27, cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux. Voici le sort qu'attendait Paul. Il allait être tué. Je savais, je le voyais. Ça... Et voici la réponse de Claude. Lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Hein, c'est le mot enlevé. Et le synonyme, hein, si vous reculez jusqu'au verset 10 qu'on a vu, hein, il dit qu'il fit descendre des soldats pour l'enlever du milieu d'eux. La semeur dit, je l'ai arraché de leurs mains. Darby dit, je l'ai délivré. Hein, il allait à tuer, mais je l'ai sauvé. Je l'ai délivré. Ce Romain a déployé tous ses efforts pour délivrer, pour arracher un autre citoyen romain d'une mort certaine. Alors, revenons maintenant en Galates. Voilà, petite histoire pour nous aider à mieux comprendre la Bible, mais je crois mieux comprendre ce que va dire l'Esprit ici dans ce chapitre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Nous avons vu ça la dernière fois. Il s'est donné, pas, il n'a pas donné 400 soldats, il s'est donné lui-même. Il a carrément donné sa vie sur la croix. Tout ce qu'il a fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, verset 4, Galates 1, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Comme ce commandant a fait pour Paul, de l'arracher de la mort, Christ nous a arrachés de la mort, il nous a délivrés de la mort. Mais quelle menace pesait sur nous? De nous arracher du présent siècle mauvais. Et vous pouvez mettre dans la marche, si vous voulez, dans votre Bible, à côté du mot « arracher », les synonymes « délivrer », « enlever » ou même « sauver ». C'est ce mot très très fort. Nous étions voués à la destruction jusqu'à ce que Christ soit venu pour nous arracher, pour nous délivrer. Et notez, c'est très important de noter que le but de la mort de Christ n'est pas de réformer le siècle présent. Vous voyez ça? Mais de nous arracher et de nous sauver du siècle présent. Mauvais, comme il dit. C'est intéressant de voir à travers les âges du christianisme et encore à notre époque, l'ampleur de l'énergie déployée au nom du christianisme dans la tentative d'améliorer notre époque. Cependant, cela soulève une réflexion sur la mission initiale de Christ. Est-ce que Christ est venu pour améliorer le siècle présent? Ou est-ce qu'il est venu pour arracher les individus de l'obscurité du monde païen? Alors, pour clarifier, hein, on n'est pas contre le fait d'être le sel de la terre ou la lumière du monde. La Bible nous dit de faire du bien à tous, surtout ceux qui sont de la famille de Dieu. Mais le but de la mort du Christ n'était pas de réformer les cultures, mais de sauver les âmes. Et il y a des églises carrément, des mouvements chrétiens qui se sont donnés à la réformation d'une culture. Ils ont perdu en fait la mission de Christ d'arracher les hommes de la culture. Donc repensons à ce que nous lisons dans les actes de cet homme avec Paul et appliquez-le à nous-mêmes. Tous ces efforts ont été déployés par Dieu. Il a envoyé son Fils. Et il a fait pour nous libérer de cette condition. Ça souligne la profondeur de la menace qui nous pèse dans le siècle présent. Le siècle présent nous pose une menace grave. Il faut que nous soyons arrachés de ce siècle. Alors, est-ce que nous sommes convaincus, comme dit le verset 4, que le siècle présent est un siècle mauvais? Christ est mort pour nous en délivrer du présent siècle mauvais. Alors bien sûr, il y a des éléments où nous serons tous d'accord que c'est mauvais. Mais quand on parle de l'immoralité de ce siècle, ou la sensualité de ce siècle? Est-ce que nous sommes convaincus que ce sont des choses mauvaises dont Dieu veut nous arracher? Et quelqu'un demande, ben, quelle devrait être ma position à l'égard de ce siècle présent? Et il y a un verset qui nous aide dans la traduction Parole de vie, où Paul dit en 1 Corinthiens 7, 31, bref, que tous ceux qui sont engagés dans les affaires de ce monde en vivent détachés, et que ceux qui jouissent de ces biens apprennent à s'en passer. Il dit, il faut le faire sans le faire, littéralement. Mais on comprend, c'est une expression, le faire sans le faire. Ou, c'est-à-dire, on y est, mais on ne peut jamais y être à fond de tout cœur. C'est comme un adulte qui joue avec un enfant. L'enfant veut jouer un jeu. J'ai des enfants qui inventent des jeux, hein, c'est tout petit. Et donc, pour faire plaire, hein, pour... On joue leur jeu. Mais l'adulte n'est jamais engagé au point que s'il perd le jeu, il va pleurer. Non, il sait prendre sa distance. Il connaît l'importance de ce jeu. Et dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons vivre dans ce monde. Nous pouvons nous-mêmes jouir de toutes ces choses comme venant de Dieu. Mais nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et ne pas nous laisser... aller au point où ça prend toute la place. On doit vivre d'une certaine manière détaché, avec la capacité de s'en passer. Si Dieu les donne, oui, mais si on se trouve comme Job et Dieu les ôte, on peut dire, Dieu a donné, Dieu a ôté, mais béni soit le nom de l'Éternel. Certains le traduisent comme, ce verset ici, comme « n'en faisons pas pleinement usage ». Une traduction dit « comme ceux qui utilisent les choses du monde comme s'ils n'y étaient pas absorbés ». Et Paul aborde ici une situation spécifique en Romains 7. Mais je crois que cela résonne avec la pratique du croyant dans toutes les époques. Nous sommes des voyageurs, dit Pierre, des hôtes de passage. Et nous passons dans, si vous connaissez le voyage du pèlerin, nous passons dans la foire aux vanités et nous devons constamment nous rappeler que ce sont des vanités qui vont passer. Nous ne pouvons pas donner nos cœurs à ces choses. Et Dieu, est Jésus-Christ, Dieu le Fils est mort pour nous arracher de l'emprise de ce siècle. Les chrétiens, donc, sont des gens d'un autre siècle. Ils sont des pèlerins, mais qui vivent pour une autre époque. Ils attendent la venue du Seigneur. C'est comme on vient de chanter. Ils ont l'œil sur le ciel. Et ils disent, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, eh bien, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que nous savons que c'est à travers beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Mais ne réduisons pas simplement ce mal à un concept extérieur, à les choses qui sont dans le monde, mais pas en nous. En fait, la Bible dit que ce mal est en nous. Même le mal de ce présent siècle. Il dit que, en Éphésiens 2, que nous marchons tous, hein, selon le prince de ce monde, mais aussi, il dit, selon ce siècle présent. Nous, on est entraînés par eux. Et le mal qui est à l'extérieur, on le trouve en nous. On trouve cette attirance en nous-mêmes. Seule la parole de Dieu est sainte et pure et juste. Donc Dieu a envoyé son Fils pour nous arracher de cela. Et quelle grâce de pouvoir être libéré de l'esclavage de ce monde. Mais quelle est la force motrice qui a conduit à cette mort? Voulons avancer, voir la volonté causale derrière cette mort. Regardez en Galates 1, il dit, verset 4, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Mais quelle est la volonté derrière tout cela? C'est selon la volonté de notre Dieu et Père. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce qu'il veut pour nous. l'œuvre du Père et du Fils. On le voit ensemble, j'aimerais juste le souligner. Est-ce que vous pouvez regarder le verset 1 ? Paul, apôtre, non de la part des hommes, mais ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Vous voyez, le Père et le Fils. Donc, Paul est appelé par Jésus-Christ et Dieu le Père. Après, il dit au verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la grâce et la paix sont données aux croyants de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le verset 4, « Il s'est donné lui-même pour nos péchés. » Ça, c'est l'œuvre de Christ. Il s'est donné lui-même. Hein. Il n'a pas été obligé, il s'est donné. Mais cela était selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc, on a trois étapes dans l'action divine pour le salut de l'homme. Première étape, Christ est mort pour nos péchés, hein, afin de nous libérer de ce mauvais siècle. Deuxième étape, il a nommé Paul et les autres apôtres pour déclarer ce message. Et troisième étape, ce don nous est donné, hein, c'est la grâce et la paix qui sont données en fait aux croyants. Et dans chacune de ces trois étapes, on voit que ce sont le fruit de l'action du Père et du Fils. En fait, la Bible dit que Dieu le Père était dans le Fils réconciliant le monde avec lui-même. Il ne faut jamais imaginer que le Père est fâché et que c'est le Fils qui vient et trouve une solution. Et le Père dit, bon, ok, je cède. Non, non, le Père est derrière tout cela. Vous êtes aimés du Père. Nous devons recevoir l'amour du Fils, oui, mais nous devons également recevoir l'amour du Père. Il est en fait la source de tout cet amour pour nous. Dieu, le Père, nous aime. Nous ne pourrions pas connaître la grâce et la paix si Jésus-Christ n'avait pas été historiquement crucifié et si les apôtres et les Écritures n'avaient pas été proclamés. Et dans tout cela, nous trouvons le Père et le Fils, verset 1. Le Père et le Fils, verset 3. Le Père et le Fils, verset 4. C'est la volonté de Dieu le Père derrière tout cela. C'est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Eh bien, venez à Jésus-Christ. C'est sa volonté de vous sauver. Et puis finalement, quel est l'objectif ultime de cette mort? C'est très clair, hein? Revenez au verset 4. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Ça, c'est l'œuvre de Christ. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ça, c'est l'objectif, hein, de nous sauver de ce siècle. Tout cela, c'est selon la volonté de notre Dieu et Père. Et que dit le verset 5 ? À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On peut dire l'objectif ultime de cette mort, c'est la gloire de Dieu. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Tout ce qu'il a fait revient vers lui dans la gloire, la glorification. Dieu veut être glorifié par nous. Et quel est le dernier mot du verset 5? C'est le mot Amen. Amen. Et nous voyons que parmi les premiers chrétiens, c'était attendu en fait que les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Et il y a tout un argument, j'ai des notes, mais je ne vais pas tout le donner, mais en 1 Corinthiens 14, où il insiste que dans l'assemblée, nous parlons dans les langues comprises par ceux qui sont là, présents. Et il dit qu'il faut prier avec l'intelligence. Il nous instruit, en fait, de prier avec l'intelligence et avec l'esprit, les deux. Mais son argument repose sur ceci. Je vais vous lire 1 Corinthiens 14, versets 15 et 16. Je vais juste sauter au verset 16. Il dit autrement, si tu rends grâce par l'esprit, et donc pas avec l'intelligence, et l'autre ne comprend pas, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de cela. Mais pour rester ici en Galate, il y a au moins deux choses ici. Dieu veut que les auditeurs comprennent ce qui est dit, qu'ils comprennent intellectuellement et spirituellement ce qui vient d'être dit par rapport à Christ. Dieu veut donc que chacun ici comprenne pourquoi Jésus est mort. Ce n'est pas trop difficile, ce n'est pas au-dessus de ma pensée. Non, avec l'aide de l'Esprit, il veut que je comprenne qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est mort pour m'arracher de ce présent siècle mauvais. Et il veut aussi que je puisse répondre avec un amen. Un amen. Qui dit cette chose est sûre, cette chose est certaine. Vous dites, bien sûr, elle est sûre. Bien sûr, elle est certaine. Et moi, je dis, amen, c'est vrai. Elle est déjà sûre. Elle est déjà certaine. Moi, je ne peux rien changer. Mais quand je dis amen, je suis en train de dire que moi, j'y crois aussi. Moi, je dis que c'est sûr. Moi, je dis que c'est certain. Moi, je lève ma voix pour aussi m'identifier à cela. Et je crois que quand Paul disait ici, au verset 4, que Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Je crois qu'il s'attendait à ce qu'il y ait dans l'Église cet amen retentissant. Amen. Nous le croyons, nous aussi. Je crois que c'est une très bonne pratique quand quelqu'un prie. Où il y a un chant, où c'est la parole de Dieu qui est donnée, que nous puissions dire à la fin, surtout à la fin d'une prière, nous puissions tous dire amen. Donc on va le tenter. On va essayer. Je vais lire les versets 3 à 5. Et si vous y croyez, à la fin vous allez ajouter avec moi votre amen. Il dit que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le peuple de Dieu doit répondre à cet évangile. Vous ne pouvez pas être un chrétien et entendre ce merveilleux évangile et rester indifférent. Ça, c'est notre bonne nouvelle, à nous. Et on voit même ces échos du peuple de Dieu qui entend. Imaginez, ils lisent ça pour la toute première fois. Ils répondent avec « Amen, nous y croyons aussi ». Donc ne résistez pas à cette nouvelle, ne la minimisez pas. Ne minimisez pas vos péchés non plus contre Dieu. Ne minimisez pas la méchanceté de ce siècle présent qui est mauvais. Et remerciez avec Paul le Seigneur et dites avec lui, oui Seigneur, oui c'est vrai, je la crois, je l'adopte, c'est à moi. Amen. Prions. Ô Dieu notre Père, nous te louons de ce que cet évangile est réel et elle est vraie. Et nous savons que nous y croyons pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, mais que dans ta grâce, tu nous as ouvert l'intelligence, tu nous as ouvert le cœur, comme tu as fait avec Lydia si longtemps dans la Bible. Tu nous as donné la foi pour croire. Et nous voulons croire de tout cœur. Et nous te demandons, nous te supplions de sauver les âmes qui sont autour de nous pour ta gloire et pour notre joie. Amen.